Hey, salut vous autres, comment ça va? Vous êtes déjà nombreux à être connectés, c'est génial. Dites-nous un peu, ben, ça commence déjà, Lac-Saint-Jean, Wendeki. Ben oui, Carrick, salut Carrick, comment ça va? On se parle régulièrement. Bon live, il y a du monde à connecter déjà pas mal. L'Ange Gardien, ouais, partagez-nous ça. Salut Anthony, comment ça va? De la Belgique, tabarouette, de la Belgique. On va avoir Alice aussi qui devrait se connecter, j'imagine, là, qui est en France. Fait que vous êtes un peu plus proche un de l'autre que nous autres ici, mais pour vous autres, il est tard présentement. Je pense que c'est quoi, 6 heures, si je ne me trompe pas, Anthony ou Alice, dites-moi ça, là, je ne suis pas bon là-dedans. Là. En Afrique, c'est 6 heures, mais chez vous, ça doit être à peu près la même chose. Lévis, chaque côté ici, Saint-Nain, la Laurentide, la Barouette. C'est chez vous qu'il y a du cotton-tail, la cotton-embarrure, les petits lapins, la cotton-tail, des invasions. On a reçu, c'est drôle, hier, en studio pour l'émission de Aller voir jeudi, les oiseaux de proie. Il chasse le cotton-tail, ça me fait triper au bout, puis il parlait de bécassines, puis trucs de même. Si vous voulez que je vous dise, ça me branche. Hein. On fera des nouvelles un petit peu plus demain, on est en live NFA ce soir, mais juste une grande ligne pour ceux qui ne l'ont pas vu, le Sanimax qui s'était retiré du ramassage des restes d'ours par rapport à la leptospirose, qui avait fait qu'il y a beaucoup de bouchers qui ne prenaient plus d'ours. Puis évidemment, ça coupait aussi un peu le pipeline de chasseurs généreux. Hein. Les propriétaires légitimes d'armes à feu, la famille des chasseurs là-dedans sont... des gens qui sont très généreux sur la venaison. Puis il y a beaucoup de dons qui se font à tous les années. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de viande. Là, on coupait comme l'ours qui avait été accepté par chasseurs généreux il y a 2 ou 3 ans avec la position malheureuse de Sanimax. Il y a eu des pressions qui ont été faites un peu partout. On dit un gros merci à Joël de l'équipe Chasse Québec, entre autres, qui a été dans le dossier. Bob Bélanger aussi de la FDCP, le président de la régionale 03. Vous avez mis du temps là-dedans. Ça a donné ce que ça a donné. Retour de Sanimax dans le ramassage des ours. On en reparlera demain des restants d'ours, mais je pense que... Tabarouette, j'avais le chat, ça y est, on n'a plus de chat. Là, on n'a pas de chat. Je sais pas, je l'ai pris là, mais on n'a pas de chat. Fait que retour de ça, très intéressant. Ce soir, je passe par-dessus les nouvelles, on va en parler beaucoup plus demain. Évidemment, vous le savez, on est en live Liberté, Honnêteté, votre live francophone, votre bulletin francophone de la NFA, vous l'avez demandé longtemps. Eh bien, l'œuvre là, le monde de l'Abitibi qui se connecte, Lac-Saint-Jean, tabarouette de partout. On voulait aller au lac, on voulait aller dans ce coin-là pour aller à la pêche à la glace, on voulait aller à la baie, puis on n'a même pas eu le temps cette année. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Ce soir, bien, je vous l'ai dit dans le teaser qu'on a fait, on s'écarte un peu de nos opinions à nous autres. Alors, vous êtes beaucoup à nous dire, et avec raison, on est à tous les jours en train de dire en quoi la C-21 ne fonctionne pas. Dans nos opinions, c'est très émotif comme débat. Les propriétaires légitimes d'armes à feu, ils ont un droit... à la possession là-dedans, c'est du matériel qui nous appartient littéralement. On se sent un petit peu violé dans notre intimité, hein, dans nos maisons, avec tout ça. La NFA est là à nous défendre. Il y a d'autres organismes qui sont là à nous défendre. Le débat est là. La C-21, vous voyez tout passer. C'est beaucoup un débat. Il y a des faits, mais il y a beaucoup d'opinions et d'émotifs là-dedans. Fait que là, on veut savoir, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Dans un premier temps, beaucoup d'appels à... Oui, mais les experts, vous nous dites des noms à gauche et à droite, qu'est-ce qu'ils nous disent les experts? Qu'est-ce qu'ils nous apportent comme data? Y a-t-il des champs de recherche, des champs d'expertise réels et sérieux qui ont vraiment fait le tour de la question là, sur le plan médico-légal, sur le plan des forces de l'ordre? Bien, ce soir, on va vous parler d'un mémoire qui a été déposé par un docteur duquel on vous a parlé, Chuck et moi, dans les derniers lives NFA, qui est le docteur Langman, qui a, entre autres, qui a été expert... témoin expert sur le CQ Meeting, vous l'avez entendu, c'est lui qui disait que même une législation excessivement serrée sur les armes à feu au Canada n'aurait pas d'incidence, pas peu d'incidence sur les homicides. Eh bien, il a livré son mémoire avec, je ne sais pas combien de pages, je pense 3-4 pages de référence scientifique à la fin. Alors, facile, au moins deux pages bien pleines. Là. J'ai au moins 2 pages pleines là, d'en haut en bas de référence scientifique. Tu sais, c'est pas Gonzo, c'est pas Bourget. C'est pas Bourgette qui donne son opinion là. On s'en va in deep là-dedans. Avant ça, vous avez votre live francophone NFA maintenant. Vous connaissez la NFA, on vous l'a présenté plus que vous la connaissiez dans le passé probablement. Il y a une chose qui est excessivement importante. La NFA, si elle maintient des activités et veut maintenir une certaine pérennité dans ses activités à représenter les propriétaires légitimes d'armes à feu, sa force, c'est le nombre, un peu comme nos fédérations. Alors, c'est important d'entrer membre de la NFA. Le membership de la NFA, en plus, c'est pas quelque chose que vous allez casser votre petit cochon. Là, c'est du change de fonds de poche. Là. C'est 35 $ pour le membership individuel. 10 $ supplémentaires, vous avez une assurance responsabilité civile qu'on ne pourrait pas se payer à ce prix-là, là, parce que là, c'est une assurance collective au travers des membres, évidemment. Il y a du membership familial, il y a du membership à vie. Pendant le live, laissez le live ouvert. Laissez le live ouvert, là. On va vous mettre dans les commentaires, là, en régie, ils vont mettre en commentaire, Régis va nous mettre en commentaire l'adresse du site de la NFA. Allez vous abonner et revenez nous dire dans les commentaires que vous êtes nouvellement membre de la famille NFA. Vous savez que les autres associations aussi, on vous invite à entrer membre. Ce soir, c'est la NFA qui vous apporte ça et on veut conserver ça, on veut conserver ces initiatives-là. On va être représenté par le nombre. Une chose que la NFA fait d'ailleurs, quand la NFA fait beaucoup de choses, représente légalement, même va guider, va servir de conseil, si on veut, dans certains cas d'erreurs administratives qui mènent à la criminalité administrative de ses membres. Mais une chose que vous allez recevoir à la maison lorsque vous êtes membre de la NFA, c'est le Firearm Journal. Et il vient de rentrer le nouveau. Là. Ça, c'est le nouveau qui vient de rentrer. Et ce qui est super, c'est que si vous allez... Bon, c'est en anglais. Dans l'ensemble, c'est en anglais pour l'instant. Par contre, si vous regardez l'éditorial de Rick, qui est le président, vous l'avez aussi en français. Et Rodemarie législatif, l'éditorial de ce mois-ci, parle directement du grand cafouillis législatif qui est alentour de la C-21 et c'est foutrement bien écrit. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. On va chercher l'information quand même assez technique sur certaines munitions, certains outils même qu'on va utiliser pour faire des réparations à la maison du gunsmithing. Il y a vraiment du bon stock là-dedans, honnêtement. C'est en anglais. Pratiquez votre anglais. Pratiquez votre anglais. C'est pêché. Il y a souvent des promotions qui viennent avec ça qui sont super intéressantes. Vous aimez ça, les T-shirts? Les T-shirts de la NFA qui sont super, qui sont bien, bien, bien aimés. Ben là, il y a une promo que tu achètes n'importe quel T-shirt de la NFA, tu rentres dans un concours pour gagner une Winchester modèle 70, calibre 2.43, noyer français, qualité 2A3, qualité 3A. Donc, très intéressant, avec un Leupold VX Freedom 4-12-40 sur la tête. Tu achètes un T-shirt, tu rentres dans le concours. T'en veux un autre? Cadex, québécois. Avec des donations, tu cours la chance de gagner la carabine de chasse dont on te parlait de Cadex, la CDX R7 Sporter Rifle en 308. Ça vaut 6 000 avec le télescope sur la tête. Ils mettent un Leupold VX6 HD. J'ai le VX5 puis le VX6, moi, que j'ai testé. Honnêtement, là, on est sur la coche en tabarouette, en tabarouette. Fait que la R7 Sporter en 308, quand on fait une donation à la NFA, le Bone Collector Giveaway, alors là, c'est une Cadex, donc très, très, très intéressant. Puis on reçoit, bon, on reçoit, évidemment, l'application de membership pour donner à nos amis. Vous avez aussi l'information sur l'AGA. Chuck va sûrement nous en reparler, là, donc... Vendredi 5, samedi 6 mai, c'est samedi 6 mai là, qu'on pointe pour le public. Là. C'est un open panel, donc en français, c'est une discussion ouverte avec des invités spéciaux à l'Hôtel Brossard de Québec. Donc, vous avez le bon d'abonnement directement avec votre Firearm Journal. Il y a quand même pas mal de ça. Tu sais, la NFA, là, évidemment, c'est en anglais de ce côté-là. Lisez un petit peu l'anglais, on arrive avec le bulletin francophone de la NFA, beaucoup de stock. Ce soir, d'ailleurs, le mémoire qu'on vous présente du Dr Langman, on l'a traduit peut-être pas parfaitement avec l'aide de M. Microsoft un petit peu, pas Google. Quand vous faites la traduction en passant, lâchez Google un peu. Allez dans Microsoft, là, allez dans Révision, faites traduction, choisissez votre langage d'entrée, votre langage de sortie, vous allez avoir des bien meilleures traductions. Ils switchent même les débuts et les fins de phrases pour faire le bon lexique, la bonne composition de phrase. J'ai recorrigé un petit peu au travers. Donc, on a le mémoire du Dr Langman en français, je vais porter une demande à savoir, probablement au travers de la NFA, parce que d'ailleurs, la NFA a partagé sur son site web, et vous pouvez aller voir là, dans les nouvelles récentes, dans la première page, à votre gauche, quand vous entrez sur la page, vous allez voir le dernier tweet là, du Dr Langman, et vous allez voir aussi un YouTube là, qui a été posté très, très, très dernièrement, là, qui fait un peu le bilan de la comparution comme témoin expert du Dr Langman au CQ Meeting. Il y a de l'information sur le site de la NFA. Allez-y sur le site de la NFA, ça en vaut vraiment la peine. Cliquez sur français, il y en a une bonne partie en français quand même. Évidemment, il y a plus de stock en anglais. Le Canada anglais est plus grand, il y a plus d'officiers de terrain. Chuck, on lui demandera tantôt, mais à moins que je me trompe, je pense que c'est le seul officier de terrain francophone. Mais on va lui demander, mais qui monte. Fait qu'on se lance là-dedans, je monte notre beau bonhomme. Chuck Côté, comment ça va?
Salut Martin, ça va bien toi?
Ça va super bien, ça va super bien. Un petit peu de neige là, mais c'est doux cet ancêtre pour sortir dehors. Vous savez, la forêt reprend sa place tranquillement pas vite. Là. On peut quasiment imaginer les feuilles pousser pour commencer à tourner, commencer à retourner dans le bois. Là. Ça fait mon affaire. Là.
Je te dirais que nous autres à Montréal, il fait pas mal. La neige, là, c'est fini.
Mais vous êtes dans le sud. Vous êtes dans le sud. C'est, écoute, c'est. Les pelles à Montréal, c'est surfait. Là. C'est... dans le fond, si t'es paresseux, déménage à Montréal.
Oui, exact.
C'est aussi simple que ça. Hey, Chuck, avant de me lancer dans le mémoire qu'a déposé le docteur Langman, Kaelin Langman, je veux qu'on parle rapidement, parce qu'on se réserve la semaine prochaine pour faire un rapport plus exhaustif, si on le veut, du CQ meeting de la semaine passée. Où est-ce que toi, tu l'attendais beaucoup parce qu'il y a quelqu'un qui allait parler là, qui allait présenter sa position, une province. C'était la première fois qu'on avait ce genre de présentation-là. Puis, honnêtement, là, on va vous mettre le lien là, ici ou sur mon Facebook. Là, on va vous mettre le lien là, du CQ Meeting numéro 59. Écoutez l'ouverture. Écoutez-la, la docteure. Vous allez être fessé sur un moyen temps, je pense. Je pensais que c'était la comparution du docteur Langman qui était le top numéro un, mais ouf, elle, quand elle est passée, là, de l'argumentaire basé sur du data de quoi de terrible, je te laisse m'en parler parce que c'est quelqu'un que tu as de l'air à admirer beaucoup.
Bien, docteur Terry Bryant, écoute, c'est la CFO de l'Alberta, comme j'expliquais un peu là, au travers de nos derniers lives. L'Alberta s'est dotée de leur propre contrôleur des armes à feu, oui. Le CFO. Avant, c'était la GRC. Nous autres, ici, c'est la Sûreté du Québec qui s'occupe de ça. Donc, puis c'est probablement le seul contrôleur des armes à feu qui, je te dirais, est là pour protéger les tireurs sportifs et les propriétaires d'armes à feu. Ils font vraiment, dans le fond, ce qu'ils devraient faire, là, c'est promouvoir... Ben, le mandat officiel, c'est justement de gérer tout ce qui est transfert d'armes restreintes. Mais oui. cette personne-là, est sortie publiquement pour dire, regardez, là, nous, on a décidé, justement, l'Alberta a décidé de doter de son propre CFO, justement, pour pouvoir protéger les propriétaires d'armes à feu. Ça suffit, là, dans le fond, les décisions arbitraires. Le contrôleur des armes à feu ne fait pas de législation. Il, dans le fond, il va exécuter les législations. Mais souvent, dans le fond, il y a des interprétations qui sont faites, puis c'est pas à l'avantage des propriétaires d'armes à feu. Donc, il y a vraiment une tendance, là. C'est sûr, ça reste l'Alberta, donc est-ce qu'on est surpris? On verra probablement jamais ça au Québec. Mais oui, Dr. Terry Bryant, qui était au CQ meeting, puis justement... très bonne répartie, quelqu'un qui est très informé, que ça fait longtemps qu'il est dans le domaine des armes à feu, et elle s'est très, très bien débrouillée. Là.
Je t'entends dire, elle, c'est aussi une représentante quand même assez intéressante parce que c'est aussi une transgenre. Donc, ça vient, honnêtement, là, tu sais, puis j'ai un peu de misère avec les préceptes qui se passent dans les derniers temps dans la société qui dénaturent un peu même la base. Mais là, dans ce cas-là, assumer de cette façon-là, dans la position qu'il ou elle est, là, probablement que c'est elle maintenant qu'on doit l'appeler, je vais le dire comme ça, ça fesse dans le dash. Ça fesse dans le dash parce que là, t'as une représentante féminine, transgenre, CFO, qui vient mettre tellement de sens dans son speech que tu peux pas passer au travers de ça. C'est un mur de briques, cette histoire-là. Là. Puis d'ailleurs, je ne me rends pas, elle a carrément déposé un bill là-bas. Elle a un projet de loi en cours, littéralement. Là.
En fait, la province, c'est pas elle, là, c'est la province de l'Alberta qui a décidé, de créer une loi, un projet de loi qui va justement protéger les propriétaires d'armes à feu. Parce que ce qui est arrivé les derniers temps au niveau du fédéral, bien là, dans le fond, avec... Ce qui est un peu particulier là, que nous autres, on déplore, c'est parce que ça a été fait par décret. Bon, oui, au Canada, les décrets, là, on peut les compter sur les doigts d'une main. Là. Tu sais, je veux dire, c'est un outil législatif pour... Dans le fond, c'est une massue. C'est de dire, regardez, là, il faut absolument que cette législation passe. Il n'y a pas de procédé législatif. Il n'y a rien qui se passe à la Chambre des communes. C'est-à-dire le gouvernement qui est en place. Puis là, en ce moment, c'est un gouvernement minoritaire. Donc, je veux dire, il ne devrait pas aussi facilement être capable de passer des lois et des règlements. Là, c'est tout ça. On passe, on bypasse toute la démocratie, puis on dit, regardez, c'est ça, puis il n'y a personne qui a son mot à dire. Personnellement, je veux dire, moi, je trouve ça un peu particulier, là.
Ça l'est, parce que si tu regardes les dispositions d'un Order in Council, un décret en conseil, tu dois soit avoir la loi martiale de décréter dans le pays ou encore l'état d'urgence sanitaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres circonstances, je ne sais pas s'il y en a qui sont légistes ou juristes ou avocats dans la gang, là. Je pense que c'est loi martiale ou état d'urgence sanitaire. Puis effectivement, c'est un peu une mesure critique, là. C'est une mesure là, face à une problématique de masse, là.
Ouais,
Ça,
c'est le dernier recours, là. Je veux dire, t'es pas supposé d'utiliser ça comme ça. Puis là, dernièrement, par rapport aux armes à feu, ben, dans le fond, il y a eu le décret de 2020, de mai 2020. Puis il y a eu justement dernièrement les pistolets, là. Dans le fond, tout ce qui est transfert, il n'y a pas de loi en ce moment. C'est C-21, ça va être la loi. Mais là, le gouvernement fédéral a dit, bon, ben, par décret, on empêche tous les transferts, toutes les ventes, toute l'importation de pistolets.
je réponds juste une question rapidement. Il n'y a pas de code rabais pour l'adhésion à l'NFA. La NFA maintient volontairement ses prix d'adhésion tellement bas pour être sûr de représenter le plus grand nombre de personnes. Juste le Firearm Journal qui vous est livré, là, le 35 $ que vous donnez, là, ça, on fait ça nous autres aussi, produire un magazine, là, avec le coût d'impression,
Oui, c'est très
le coût
cher, là.
d'envoi.
Ça a augmenté dernièrement en plus.
Et c'est 21 % d'augmentation le papier
Oui.
juste en 2022, puis on a eu deux autres augmentations dernièrement, là. C'est assez. Non, il n'y a pas de code, mais on a choisi un peu comme dans les annonces de certains magasins ces temps-ci. On n'est pas décoré comme une galerie d'art. Le magasin n'est pas le plus beau, mais on maintient les prix tellement. Ils maintiennent les prix tellement bas pour vous donner accès que c'est aussi simple que ça. Non, ça, c'est la partie qui est la plus fâchante parce que quand c'est arrivé, on n'a rien pu faire. La deuxième partie qui est excessivement fâchante, puis on l'a revécu dernièrement encore avec la mise en place des mesures de rachat, c'est qu'il y a des mesures qui sont prises alors que la loi est même pas à sa dernière lecture. Tu sais, en théorie, il reste des lectures, ça doit passer à la Chambre des communes, puis ça s'en va au Sénat pour être lu par les sénateurs, étudié par les sénateurs, et là, ça revient. Et généralement, si je ne me trompe pas, ça revient avec des recommandations. Et là, en Chambre des communes, on va adopter finalement. Fait qu'on est loin de l'adoption de la C-21, là.
Oui.
Si vous ne savez pas, là, c'est encore un projet de loi. Mais même si c'est un projet de loi, on met des réglementations en force quand même. L'AR-15, les variants de l'AR-15, ça a lynché un bon bout d'armes à feu. Les armes de poing. Puis dernièrement, ben, le programme de rachat
Qui est inexistant, là. Ils ont supposé de commencer à l'île du Prince-Édouard. Ça va être un essai, mais je veux dire, ça va faire 3 ans que les gens ont leur propriété chez eux. Ils peuvent pas rien faire avec. Dans le fond, c'est de l'argent qui est barré là. Puis, ce qui est un peu
littéralement.
insultant aussi, c'est si vous regardez, là, dans le fond, l'inflation qu'il y a eu ces derniers temps, au courant des 3 dernières années depuis le COVID, dans le fond, les prix de rachat qui ont été donnés par le gouvernement fédéral, c'est carrément une claque d'en face, là, je veux
J'ai des
dire.
armes sur lesquelles le canon vaut 3 fois ce prix-là. Là.
Mais c'est ça, c'est exactement ça.
Non, puis tu
C'est
sais,
d'un ridicule.
juste de dire, tu sais, réaliser, là, ça veut dire que là, on a commencé à mettre l'exercice en jeu avec la GRC au niveau du programme de rachat. Ça veut dire que avant même que la loi soit adoptée, on vient de commencer à injecter des budgets pour mettre en place les programmes. On ne sait même pas. Il va y avoir des élections, ça va-tu en virer de bord? C'est hallucinant de voir comment est-ce que, tu sais, quand on dit oui à la sécurité publique, là, en passant, c'est une édition très limitée à deux gilets parce que quand on l'a fait faire par André. André Morin, donc les impressions PA Morin, on a fait faire parce qu'on voulait en mettre sur le marché. Puis il y a un commerce qui en a sorti pour ramasser des fonds pour donner à une des associations. On s'est retiré immédiatement pour laisser la place parce qu'évidemment, avec ce qu'on a comme publicité, on aurait fait mal vu qu'on a dit à la place, on va les mettre eux autres de l'avant. Fait que c'est pas disponible. Là. Je me souviens pas du nom de la boutique qui en a, qui en vend, là, mais celui-là n'est pas disponible. Mais quand on dit oui à la sécurité publique, ben c'est exactement de ces montants d'argent-là qu'on parle. Le grand public, même s'ils veulent rien savoir des armes à feu, avec tout ce qui se passe, Amqui encore, c'est hier ou avant-hier, avec tout ce qui se passe, les gens nous demandent de renforcer les forces policières, les services frontaliers, Et la prévention en santé mentale, la détresse psychologique, elle est majeure. Vous lirez, tapez les... comment ça, ils appellent ça? Les effets pervers de la COVID. Tapez ça sur Google, les effets pervers de la COVID, pour voir un peu les chiffres en termes de détresse psychologique. C'est assez majeur. Alors là, on est déjà en train d'injecter des sous au niveau de la GRC pour mettre en place administrativement un plan de rachat qui n'est même pas encore adopté. On a fait le ban sur les armes de poing, on a fait le ban sur les AR-15. On n'a même pas encore adopté le projet de loi. Puis juste tout ce qui coule comme encre alentour de ça, le CQ Meeting par lui-même, tout ce qui est... Même comme expert témoin, moi, je ne veux même pas envoyer mon compte de dépenses là-bas. Il rembourse l'hôtel, puis ces affaires-là, honnêtement, je ne l'enverrai même pas. Je l'enverrai même pas parce que je trouve ça stupide. J'ai payé mon hôtel, Kate a payé le gaz, puis on est allé là-bas, puis on a jasé avec eux autres. Puis compte de dépenses, j'ai fait ça de même, j'ai tiré l'invidence. C'est pas vrai, j'embarque dans cette innocenterie-là. On a déjà tellement d'argent mis dans le processus pendant qu'on a des gens qui sont en détresse réelle. Ça, c'est ce que le grand public, il faut qu'ils comprennent, définitivement. Anthony demandait si les syndicats de policiers au Québec ou au Canada étaient pour ou contre. Il y a un paradoxe là-dedans.
C'est sorti hier ou avant-hier, là, justement, de l'Association des chefs, c'est au Québec, là, l'Association des chefs et l'Association des policiers provinciales. Mais ça, l'Association des policiers provinciales, j'imagine, c'est le syndicat des policiers de la Sûreté du Québec. Là.
Probablement.
C'est sûr que l'Association des chefs et les syndicats, c'est de la politique. Là. C'est sûr qu'eux, ils n'iront pas dire publiquement non, on est contre ça. Je veux dire, ils vont aller avec la politique, ils vont aller avec la narrative du moment. Mais je veux dire, moi, pour connaître plusieurs policiers, ils nous disent tout le temps, je veux dire, ça ne change absolument rien. Ça ne change absolument rien. Même si tu le bannis chez quelqu'un, je veux dire, les gangs de rue, les gens qui smuggle ces armes-là, je veux dire, un policier va faire un check-up dans le CPIC, puis va pas dire le gars à l'adresse, il n'est pas fiché pour avoir des armes à feu, donc on va rentrer là comme si de rien n'était, puis on va cogner à la porte. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Ça, là, anyway. La première des choses, là, ce que je trouve excessivement paradoxal là-dedans, c'est que là, justement, Guy l'a publié, là, entre autres, je l'ai vu passer, je pense que c'est aujourd'hui, là, l'association provinciale, puis les chefs de police. Mm-hmm. Puis je me souviens encore, il y a quelques mois, de m'être prononcé, ça veut dire la majorité des chefs de police dans les autres provinces sont sortis au micro pour dire qu'ils étaient contre.
Ça dépend toujours des associations, Martin. Là. C'est certain que si on regarde à des provinces qui sont un petit peu, tu sais, comme l'Alberta, par exemple, c'est sûr.
Oui, là, c'est sûr.
C'est ça qui est un peu comique, c'est qu'il y a plusieurs policiers. Maintenant, là, les policiers ne peuvent plus ramener leurs armes de service à la maison. Là. Donc, il y a plusieurs policiers qui sont détenteurs de PPA, qui sont tireurs sportifs, qui sont chasseurs. Puis, ils sont aussi affectés, comme toi puis moi, par ces législations-là. Puis, ils se disent, si nous autres, on est le problème, comment ça se fait que quand on est à notre travail, on peut avoir une arme, on peut avoir tout ce qui est disponible, mais quand on est à l'extérieur de notre travail, on n'est plus correct. Là. C'est complètement aberrant.
J'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont aller tirer, mais que les clubs de tir ferment parce qu'ils n'ont plus les moyens de rester ouverts.
Ouais,
Mais, tu sais, on parle du programme, puis on parle du... On parle d'acquisition-possession d'armes à feu. J'ai un récit qui est rentré pas plus tard qu'aujourd'hui, dans lequel souvent on va dire avant, tu sais, au Québec, on est bon pour ça. On va faire des nouvelles routes avant de réparer les anciennes routes. On a un système en place qui est solide en tabarouette, dans le sens où est-ce que c'est le processus législatif le plus compliqué au Canada, plus qu'un mariage, plus qu'un divorce. Sauf que avant de faire une nouvelle législation, on devrait peut-être regarder, puis on a eu des exemples avec Bissonnette qui n'aurait jamais dû avoir de PPA, encore moins de PPA restreint.
Appliquer la loi déjà existante.
Et voilà. Pas plus tard que cette semaine, j'ai un récit qui rentre, quelqu'un qui fait une demande de PPA par rapport à son travail, en dépression, quelque chose comme ça, quand même fortement médicamenté, mais ses références, son conjoint, etc. Pas d'appel au conjoint. Ils ont demandé une lettre par le médecin. Pas d'appel au conjoint. Pas d'appel aux références. PPA. Directement. Là, on a un candidat. Là, on a un candidat. Là. Quelqu'un qui est présentement, qui pourrait être considéré en détresse psychologique. Là, ouais. On vient de lui donner un PPA.
Puis le contraire est vrai aussi. Des fois, il y a des gens qui vivent une détresse psychologique, mais qui sont pas dangereux ni pour autrui ni pour eux-mêmes. Puis ils vont en parler à leur médecin. Puis là, avec C71 maintenant, si moindrement le médecin, lui, il est Antigone, ou je veux dire, ça ne fait pas son affaire, il peut dire, il peut écrire un rapport puis faire enlever le PPO ou faire suspendre. La
Littéralement.
SQ va débarquer chez la personne, ramasser tous ses guns. Donc, tu sais, des fois, là, c'est ça. C'est de l'administration gouvernementale, là, c'est pas tout le temps parfait.
Quand vous entendez parler, là, en passant, ceux qui n'ont pas lu ce bout-là, quand vous entendez parler de drapeau jaune, drapeau rouge, là, les gens de Poly, entre autres, qui militaient beaucoup pour ça et pour vraiment comme renforcer ça, c'était un petit peu, nous autres, le problème qu'on voyait parce que, je sais pas, moi, t'as quelqu'un qui est en maudit après toi, un compétiteur, un ancien ami ou un quoi que ce soit, pogne un téléphone, drapeau rouge,
ah,
c'est
oui.
confidentiel, puis c'est fort, terminé. Oui. C'était vers là que ça s'enlignait, ça aurait été un
On
méchant
appelle ça
carton de
swatter quelqu'un.
Ben, exactement, exactement. Fait que, tu sais, le Québec est connu pour faire des nouvelles routes avant de patcher et trouver ces vieilles routes. Puis, tu sais, ça nous ressemble pas mal. Là, c'est étendu dans le Canada, mais on aurait, y aurait matière à revoir ça. Moi, j'ai rencontré cet été, dans une foire agricole, un jeune homme légèrement handicapé physiquement, pas tant que ça. Puis au niveau de la parole, rien de psychologique, là. Au niveau de l'allocution, une petite affaire, puis une petite affaire au niveau physique, mais il est debout puis il marche, il n'y a pas de problème, là. Il n'est pas capable d'avoir le PPA. Il n'est pas capable. Puis pourtant là, on a vu des gens lourdement handicapés, malheureusement, par des accidents ou une naissance ou peu importe, puis ont réussi à avoir les PPA. Il y a des erreurs administratives là-dedans. C'est avant de passer une nouvelle législation, on commence par régler ça. C'est un petit peu comme la réponse qu'on donnait aux libéraux quand on était là-bas, qui demandaient foncièrement, là, en dehors du comité, qu'est-ce que vous avez contre le fait de criminaliser certaines armes à feu? Ben, c'est simple, je dis. Une réponse très simple. Vos crimes proviennent d'armes criminelles. Comment vous faites pour penser qu'en criminalisant des nouvelles, vous allez limiter les crimes? Ah, puis by the way, c'est pas un crime de tuer au Canada. C'est interdit de tuer au Canada, donc ça se passe pas. Il n'y a personne qui tue personne.
Peux-tu me permettre un commentaire
vas-y,
justement
vas-y.
sur les routes du Québec? T'sais, je veux dire, déjà à la base, on n'est pas reconnu pour faire des routes solides, là. T'sais,
Ah non?
Initialement, là, quand on la commence, fait que déjà, on part avec une strike, là, t'sais.
Oh oui. Légèrement. C'était un Belge, je pense, qui faisait ou un Français qui faisait un show d'humour, puis ouais, non, c'était un Portugais. C'était traduit en français dans le bas de l'écran, puis il expliquait comment ça marchait ici pour les contracteurs, que là, le gars gagne l'appel d'offres, il fait une job de merde, là, l'année d'après, ça craque de partout, puis il rappelle le même contracteur parce qu'il a gagné l'appel d'offres. Tu sais, ça, c'est totalement nous autres.
Puis tu vois, au Vermont, puis au New Hampshire, juste en dessous de nous autres, là, ils n'ont pas le même climat, c'est pour ça.
Définitivement. Ouais. C'est pour ça que quand on traverse en Alberta, le char fait plus de bruit. Pas en Alberta, mais en Ontario.
Oui, ça aussi.
Cui. Ah ben,
ouais.
Ida, un char est réparé.
Ouais.
c'est ça. Ben, ça, c'est nous autres. On se distingue.
Le Québec.
Dr. Langman,
oui.
Pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, c'est à ça que ressemble le bonhomme. Et d'ailleurs, lorsqu'il a témoigné comme témoin expert au CQ Meeting, il était là où est-ce qu'il pratique une grande partie de sa profession. C'est-à-dire que c'est un médecin. Chercheur, c'est un PhD. Première des choses, c'est pas seulement qu'un médecin. Là, il y a des titres là, très longs, le PhD, ABAM, et etc., etc. Là, on pourrait s'étendre. Donc, il est médecin spécialiste urgentologue dans un premier temps. Donc, c'est un homme qui a un énorme échantillonnage de qu'est-ce qui peut rentrer dans une salle d'urgence, légèrement ou lourdement blessé, en état ou pas en état. Mais c'est aussi quelqu'un qui est sur des chaires de recherche quand même, sur une chaire de recherche quand même assez pesante, dans laquelle la spécialité, écoutez bien là, la spécialité de cette chaire de recherche-là, c'est de faire des études pour voir les liaisons qui existent entre le système législatif entourant les armes à feu au Canada et la criminalité. Je me répète, chaire de recherche qui fait des recherches sur les liens qui existent entre la législation sur les armes au Canada et le crime. Non, c'est assez probant, là, c'est assez direct. Et soit avant ou après d'avoir passé au CQ Meeting, le Dr. Langman a fait un mémoire. Hein, on peut publier un mémoire quand on passe dans une comparution ici, on peut faire un mémoire en n'importe quel temps. Là. mais ça permet de clarifier un peu ce qu'on va aller déposer. Chose qu'avoir eu le temps, j'aurais fait parce que je me suis rendu compte, moi, quand je suis dans Secure Meeting, la traduction en anglais, c'était terrible, terrible, non, terrible. D'avoir eu le temps, j'aurais fait un mémoire pour que tout le monde comprenne bien. Lui, il l'a fait. Lui, il l'a fait. En français, ça s'appelle correction du dossier. Quand même, tu sais, quand t'écris, appelle en train, je suis en live. Bougez pas, on va flusher ça pour l'entendre. Donc, correction du dossier. Le docteur Langman, puis je vais vous présenter le document. On l'a traduit en français. Je vais demander la permission. J'imagine que vous devez avoir des liens beaucoup plus que moi. Là. On va peut-être essayer de parler, si tu peux parler aux gens chez vous, si on peut avoir la permission de rendre disponible le lien au téléchargement du document francophone. Oui. Parce que, gang, ce document-là, c'est de la foutue bombe en termes de data et d'informations. Cherchez comme vous le voudrez. Puis on cherche souvent, là, je pense, Eric, il dit, je pense que je déménage en Alberta. Ben, garde-moi une chambre, on va venir faire un tour une fois de temps en temps.
Il y a même une couple de Québécois qui ont déménagé en Alberta.
Vous êtes souvent à chercher sur le web la relation entre les armes et les crimes. C'est quoi le pourcentage d'armes légalement détenues par rapport aux homicides? Puis c'est quoi le pourcentage? Le docteur qui a témoigné exactement. Il sait très bien de quel milieu ils viennent les blessés. C'est quoi le pourcentage d'armes criminelles? Arrêtez de chercher. Arrêtez. Ce document-là, là, il y a tout là-dedans. Je vous le mets à l'écran. On va le mettre plein d'écran. Chuck, tu m'entends-tu encore quand je fais ça de même?
Oui, je t'entends super bien.
Parfait. C'est bon. Correction du dossier. Donc, mémoire C21. On descend ça. On défile ça rapidement. Première des choses. Il s'attaque à 5 mythes. Puis oui, je vous fais un peu de lecture. Là. Je vous fais un peu de lecture, mais ça en vaut la peine. Il s'attaque à 5 mythes qu'il va défaire, mais qu'il va défaire avec des preuves scientifiques et beaucoup de références scientifiques aussi. Tout ce qu'on va dire là provient d'une chaire de recherche qui se spécialise. Hein? Si vous faites la lecture juste dans l'introduction, là, De nombreux groupes et individus ont livré des affirmations, y compris certains avant le comité ou devant le comité, selon lesquels il existe des preuves solides que les interdictions d'armes à feu incluses dans le projet de loi C-21 réduiraient les crimes commis à l'aide d'une arme à feu. Notre examen de la recherche conclut qu'il y a extrêmement peu de preuves de réduction par le biais des interdictions. Ces allégations sont examinées en détail ci-dessous avec des citations directes, pertinentes et de la littérature universitaire. Là, on est dans les faits. Je vous nomme les 5 mythes. On va aller passer dessus assez rapidement parce que je veux vous laisser lire le document par après. Mythe numéro 1. La recherche affirme que l'interdiction des armes à feu réduit les homicides commis à l'aide d'une arme à feu et les homicides de masse. Mythe numéro 2. La recherche affirme que l'enregistrement des armes à feu sauve des vies. Mythe numéro 3. La recherche indique que le contrôle des armes à feu réduit le suicide. Mythe numéro 4, les armes à feu sont dominantes dans la violence entre les partenaires intimes au Canada. Et mythe numéro 5, et non le moindre, l'Australie est une réussite en matière de contrôle des armes à feu. Et là, si vous descendez, bon, vous pouvez lire sur les auteurs, là, vous allez voir que c'est des gens qui sont dans des éminentes chaires de recherche. Là. C'est pas, ils n'ont pas fait une recherche à savoir si un pouce a passé plus vite d'une flaque de melasse qu'une fourmi. Là. C'est assez solide, là. Il y a des questions d'interprétation, je vous laisserai aller là-dessus, mais regardez rapidement. Là. Le mythe numéro 1, la recherche affirme que l'interdiction des armes à feu réduit les homicides commis à l'aide d'une arme à feu et les homicides de masse. C'est une information qui est répétée régulièrement. On l'entend au CQ, on l'entend dans le verbatim des contre. On dit ici, les résultats de recherche, et vous voyez les allusions aux recherches à la grandeur. Aucune incidence de la législation canadienne sur les armes à feu, sur les homicides ou les homicides entre conjoints, violence entre partenaires intimes, de 1974 à 2008, y compris l'interdiction des fusils automatiques de 1977. Aucune association bénéfique n'a été trouvée entre la législation canadienne sur les armes à feu et les taux de suicide ou d'homicide de 1981 à 2016, recherche du Dr Langman en 2020. Bien qu'une analyse de 13 études ait révélé que le suicide par arme à feu pourrait avoir été réduit par la législation sur les armes à feu dans certains cas, la même recherche a révélé qu'il n'y avait aucun changement dans l'ensemble des taux de suicide. Langman en 2021. Aucun impact sur les homicides de masse n'a été constaté suite à la législation sur les armes à feu du Canada de 1974 à 2020, y compris les interdictions et les restrictions sur certains nombres de fusils de style paramilitaire, similaires à ceux en cause aujourd'hui, les restrictions sur la capacité des chargeurs ou l'interdiction sur les fusils automatiques de 1977. Recherche de M. Langman de 2023. On part fort, Chuck, là.
On part très, très fort. Écoute, tu sais, le problème aussi là, avec les interprétations là, de recherche, je les ai pas devant moi, là, mais quand tu faisais défiler les mythes, là,
oui.
Écoute, il y a certains groupes, là, par exemple, quand on va parler d'homicide, ben, ils vont faire une différence entre homicide et féminicide. Tu sais, ils vont utiliser. Fait, une recherche, là, quand tu la lis et tu veux faire dire ce qu'elle veut, c'est très facile aussi. Là.
L'interprétation. C'est pour ça qu'il y a des notes sur l'interprétation dans ce document-là. Hein. Il y a une demi-page de notes sur l'interprétation, puis sautez pas par-dessus. C'est pas une prémisse pour dire merci maman puis pis tout. Là. Lisez-la. Mais tu as raison. Si tu peux faire parler des études comme tu le veux. Là.
Souvent, là, on en avait parlé, là, mais des études, quand ils parlaient des enfants affectés, parce qu'il y a un regroupement de médecins là, pour le contrôle des armes à feu qui existe. Puis souvent, quand ils avaient fait une recherche, eux, les enfants, un enfant, c'était une personne jusqu'à 25 ans.
Bien, puis ça, c'est le seul groupe de médecins qui ouvertement s'oppose au dire du Dr Langman en passant.
Bon, mais il n'y a pas de surprise là.
Et voilà, parce que le Dr Langman, là-dedans, est vérifié par ses pairs. C'est une chaire de recherche. Parce que ça, c'est une chose. Hein. Amener l'affirmation d'un chercheur, c'est une chose. Un chercheur peut déposer un mémoire, peut déposer un document, peut déposer un résultat de recherche. Pas un sujet de maîtrise, mais je ne me souviens pas comment ça s'appelle. Là. Mais si c'est juste lui qui l'a déposé, puis qui n'a pas été vérifié ou endossé par ses pairs, ça veut juste dire qu'il est sorti d'un lab ou d'une analyse suivant son interprétation ou la façon que lui a appris sa science. Il faut que ce soit vérifié par des pairs si vous voulez que ce soit concluant. Docteur Langman est vérifié.
Puis Wendy Cocker, qui est à la tête de la coalition pour le contrôle des armes à feu, justement, s'est fait un petit peu rabrouer au Security Meeting pour dire, ben, regardez vos recherches, vous, est-ce que ça a été ratissé par des pairs ou qui a fait les recherches? Ben, c'est elle. Puis dans le fond, ça n'a jamais été vérifié par d'autres scientifiques. Donc,
il a fallu que Pam Damoff, à la fin, revienne et qu'elle dise que, à son opinion, à elle,
l'association
de laquelle venait l'information était intéressante et a recommandé à tous les membres du comité de s'inscrire à leur infolettre. Ça fait spécial. Ça fait spécial.
Ben, c'est parce que tu vois que c'est pas, on cherche pas vraiment la vérité. C'est de la partisanerie. Dans le fond, il y a des gens qui sont clairement, comment je pourrais dire, ils sont coulés dans le béton sur leur opinion. Écoute, je peux comprendre. C'est toujours un peu particulier parce que, tu sais, je veux dire, je mentionnais aussi avant, tu sais, toi et moi, on est père de famille, on a des enfants, puis je veux dire, on est pro-sécurité, là, dans le sens que on ne veut pas qu'il arrive rien à personne, je veux dire, de par mon travail. Fait que c'est toujours un peu particulier de dire ben, nous autres, on croit, on pense que, dans le fond, le contrôle des armes à feu qui est amené ne change absolument rien. Dans le fond, le contrôle des armes à feu, ce n'est pas le contrôle du crime.
Non, non.
Puis ça, les antigones, les gens qui sont contre les armes à feu, j'ai comme l'impression qu'ils ont énormément de difficultés à faire la différence. Je ne comprends pas c'est quoi l'acharnement constamment aux citoyens, je veux dire, qui est vérifié à longueur de journée, qui a passé le processus du PPA, je veux dire, qui est enquêté. Je ne comprends pas cet acharnement-là. J'aimerais ça pouvoir le comprendre, mais tu as une discussion, c'est impossible d'avoir une discussion avec eux parce que premièrement, ils ne veulent pas nous parler. Puis deuxièmement, à chaque fois qu'on se rencontre, ben c'est dans des enquêtes publiques comme ça qui honnêtement, là, avancent aucunement le sujet puis aucunement le débat. Là. Tu as 5 minutes pour parler, puis souvent, tu te fais couper la parole, puis...
Tu le vois, ceux qui ne l'ont pas vu, allez revoir le CQ Meeting où est-ce que j'étais. Ils ont passé la totalité du CQ Meeting, à l'exception de Raquel Danchaud, à tenter de me discréditer. That's it, that's all. Rapidement, je vois qu'on me dit que Régis a le document. Probablement que tu dois avoir le lien PDF là, du document en anglais. Régis, va dans mon Gmail. Va dans mon Gmail, je me suis envoyé en français. Tu peux aller le récupérer là, il n'y a pas de problème.
Mais de toute façon, tu sais, comme on va le mettre en ligne, puis on va inviter les gens à lire parce que c'est très intéressant. J'ai eu la chance de rencontrer le docteur Langman à Hamilton en 2018. Puis moi, ce qui m'a vraiment marqué de cette personne-là, c'est son urgentologue. Okay? C'est oui. Quelqu'un qui est hyper calme. Puis ça, on le voit là, dans le monde de l'urgence. Là, souvent, les professionnels, tu sais, c'est des gens qui sont hyper calmes dans la vie de tous les jours. Puis, tu sais, c'est sans émotion. Lui, il dit, regarde, là, moi, c'est ça qui a été observé, ma recherche, c'est ça que j'ai fait. Puis, il n'y a rien d'émotif là-dedans. Là. Je veux dire, j'ai pas d'avantage financier à dire. Tu sais, il n'est pas acheté par la NFA ou personne d'autre. Je veux dire, nous autres, on lit ses recherches parce que ça vient complètement contraster la narrative publique qu'on a aux nouvelles de dire, toutes les armes sont méchantes, puis il faut bannir toutes les armes. Là, tu as quelqu'un qui sort du lot et qui dit non, attendez, là, c'est pas du tout ça. Puis étrangement, sur le terrain aussi, c'est pas ça du tout. Là. Donc,
Je pense dans le CQ Meeting, d'ailleurs, il était sorti, puis justement, très, très drame. Vous voulez voir ce que c'est, si vous voulez voir ce que c'est qu'une catastrophe, venez voir ce qui rend sa méthamphétamine ici. Je vais vous en donner des champs de recherche, moi, sur lesquels mettre de l'argent. Là. Mais les armes à feu n'ont pas rapport là-dedans. Là. That's it. Il citait dans le CQ Meeting qu'il ressent. Moi, j'aime bien dire qu'un objet inanimé n'a d'intention que celle que va lui porter son utilisateur. Et lui, il disait justement dans le CQ Meeting, les guns ne sont pas le problème. Il disait, guns are not a problem. People are. Mm-hmm. Les armes ne sont pas le problème. C'est les gens qui le sont. Moi, je les vois rentrer ici. Il y en a que c'est avec une croix de changement de roue bord en bord du crâne. Il y en a que c'est pas les armes, l'arme du crime qui est le problème, c'est la personne, que ce soit une arme à feu, une arme blanche, une arme quoi que ce soit. Arrêtez ça. Vous voulez voir une catastrophe, venez voir ce qui rentre ici et qui crève sur mes lits, c'est la méthamphétamine ou c'est la kétamine ou etc. Là, vous allez voir la vraie détresse des centres urbains. Vous allez la voir là. Lâchez-moi avec les armes, ça n'a pas rapport. Mais drap dans ce commentaire, comme tu le dis, parce que justement, c'est quelqu'un qui agit en situation de crise. Oh, rapidement, qui traite des gens qui vont mourir, si tu sais.
Ça paraît.
J'ai plus tendance à écouter ça que quelqu'un qui a gagné des élections dans son patelin puis qui ne fait pas la différence entre une arme militaire et une arme civile. Je dis ça de même, je dis rien. C'est malheureux de voir que la sécurité de nos citoyens est entre les mains de gens qui, jusqu'à temps que quelqu'un dans le comité leur explique, ne savait pas trop la différence entre un pompeux et un semi-automatique. Puis pour eux autres, une 223, c'est une arme de destruction de masse qui n'est même pas légale pour la chasse au grand gibier au Québec. C'est... Puis là, on arrive, on prend des spécialistes comme Langman, puis on essaie de lyncher sur la place publique quand il est dans le CQ meeting. J'ai comme,
ouais. Même chose avec Dr. Terry Bryan. Tu sais, regarde, il n'y a pas. Écoute. Ça fait quand même quelques années là, que je suis là-dedans, que je suis le sujet des armes à feu. Puis avant ça, j'ai toujours suivi la politique. Puis forcé d'admettre là, que, dans le fond, l'intérêt justement du citoyen n'est pas là, là. Je pense que les politiciens ont beaucoup plus intérêt leur propre carrière et leur propre...
Il y a un autre politicien québécois qui est justement soit trans ou quelque chose comme ça là, dans le bas du fleuve. C'est quoi son nom déjà? Ah, il y en a un qui est solide, là. Solide. Il est plus
vers le bas. Quel parti?
Je ne me souviens pas, mais il était probablement conservateur parce qu'il était où il tournait alentour des autres parce qu'il était très, très présent dans la croisade avec Guy.
Fédéral ou provincial?
Probablement provincial. Probablement provincial. Hey, là,
conservateur provincial, je ne pourrais pas dire.
Il était-tu politicien? Mais Pat est là. Pat, tu dois t'en souvenir, tabarouette. C'en est un, il avait fait une coupe d'allocution, là. Il était solide en tabarouette. Trouvez-moi ça, gang.
Tu parles pas de Russell-Laurent Bouchard?
Exactement. Exactement.
Okay, c'est pas une politicienne, c'est une historienne. Bon, Au Saguenay, je pense que j'ai déjà mentionné un peu, là, elle a écrit plusieurs livres. Puis Je veux dire, ces livres sont très, très intéressants. C'est pas uniquement sur les armes à feu, mais elle a écrit un livre qui est très intéressant sur les armes à feu. Dans le fond, c'est les armes à feu, je l'ai là, dans ma bibliothèque. Les armes à feu, dans le bas Canada, entre une certaine période là, de
OK.
temps. Puis, dans le fond, c'était obligatoire pour les gens d'avoir une arme à feu puis un certain nombre de munitions, puis c'était pour se défendre des Premières Nations.
Mais tu sais, ça, c'est des gens qui ont une connaissance qui sont intéressants en tabarouette. Écoutez, Langman est dans ce sens-là. On fera un autre live sur ton. Je parle tout le temps de nom de ton. L'autre spécialiste.
Ben, je suis pas certain si c'est un nom d'artiste. C'est Russell Aurore Bouchard,
Oui,
mais
celui-là,
t'sais,
mais.
Russell Aurore, c'est un personnage littéraire québécois, là. Donc,
OK, je savais pas.
je sais. Ouais, ben, c'est la petite Aurore là, qui était martyrisée.
OK. Je ne savais même pas si c'était ça son nom. Tu vois,
Ben,
il est pas dans
écoute,
le.
moi, c'est le lien que j'ai fait, là, mais je veux dire,
Ça se peut.
faudrait lui demander, là.
Ça se peut très bien. Mais il y a un autre spécialiste à qui tu fais référence d'info. On y reviendra, là, mais il y a une autre référence à qui tu fais.
Gary Mazur.
Exactement.
Ouais, Gary Mazur de la
On a.
chaire de recherche, la chaire de recherche Fraser à Vancouver.
On fera un live un peu avec ces informations aussi. Je vous amène, je m'en vais chercher un autre bout de notre document parce que je pense que c'est très important qu'on fasse juste comme on va faire les mythes rapidement, là. Le prochain mythe, on dit bon, la vente de certaines armes à feu ne sont pas associées dans les variations de tous les homicides commis avant. Ça, c'est bon. Notre prochain mythe. La recherche affirme que l'enregistrement des armes à feu sauve des vies. On est avec des documents de recherche, là. Un document de recherche de 2011 laisse entendre que le projet de loi C-68 a été associé au sauvetage de vie de 1998 à 2004 et que l'enregistrement a joué un rôle déterminant à cet égard. Cette suggestion n'est probablement pas valide parce que l'enregistrement a été mis en œuvre en 2004, première des choses, et la plupart des armes à feu ne se sont pas conformées. La plupart des propriétaires d'armes à feu ne se sont pas conformées, selon la vérificatrice générale du Canada, avant la dernière année du processus. Seules quelques années d'impact, 2001 à 2004, sont examinées, ce qui rend les résultats très sujets aux erreurs. Ça rend presque nul et non avenu l'étude parce qu'elle ne sait même pas la période dans laquelle c'était. Bon. Le contrôle des armes à autorisation restreinte, armes de poing et nombreux fusils automatiques ont été examinés et aucun avantage n'a été constaté. D'autres recherches approfondies ne montrent aucune incidence du projet de loi C-68 sur les taux globaux d'homicides commis à l'aide d'une arme à feu au Canada. Langman a sorti en 2012 et en 2008 là-dessus. 74, je ne sais pas si c'est lui qui l'avait sorti, non? Parce qu'il me semble qu'il n'a pas l'air si vieux que ça. Je suis né en 78. Fait que. Des recherches ultérieures ont utilisé de nouvelles données et isolé le registre des armes à feu. Il a démontré que l'intervention du registre n'a eu aucun impact statistiquement significatif sur les homicides qui pouvaient vraisemblablement lui être attribués. Turley, qui est l'autre type qui écrit dans ce document-là, donc a sorti une étude là-dessus en 2017. Et tu vois, même, on remonte aussi loin que 74, on remonte aussi loin que C-68, ouais. Puis on a étudié C-68, puis on a des chaires de recherche ont déposé des papiers comme de quoi ça l'a rien changé. Puis là, ça, là, c'est 68. Quand on parle de 74, puis on parle de 77, là, c'est les armes automatiques, gang. C'est ceux-là qu'on cible comme étant les armes d'assaut automatiques, les méchants. Ça a rien changé.
On peut faire l'exercice, là. Regarde, si l'enregistrement avait changé quoi que ce soit, là, les armes de poing sont enregistrées au Canada
oui.
Depuis 1934. Il y a le registre fédéral qui a eu lieu, ça n'a eu aucune incidence. Ensuite de ça, le registre québécois qu'on a depuis 2018, est-ce qu'il y a une amélioration? C'est sûr que ça n'a aucune incidence. On le sait, je veux dire, ça ne prend pas une étude, on l'observe
mais nous autres,
nous-mêmes.
On le constate, on le livre, nous autres, mais Bourgette, puis côté, là, je veux dire, en dessous de la calotte, on a les métiers qu'on a. Là, tu as des chercheurs qui déposent des résultats de recherche, puis vous regarderez à la fin du document, je vais vous le montrer tantôt, là, les références. Regardez les références quand vous regardez des mémoires comme ça ou vous regardez des papiers scientifiques. Là, c'est tac, 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 tac. On le sait, on a des évidences en observant les faits. Tu as raison, Chuck, mais ça, pour moi, là, c'est de l'art. C'est le document que vous devriez tous vous servir quand vous avez le beau-frère qui arrive, que connais ça, moi. Connais... Remettez-y en français.
Oui.
D'une carte de fête.
Les gens, mais c'est ça, tu sais, souvent, là, des études comme ça peut être long à lire, tu sais, de faire ses propres conclusions. T'sais, je te dirais, la plupart des gens n'iront pas. Mais si vous avez la chance, ça va vous ouvrir les yeux, ça, c'est certain.
Mais je vous le dis, là, celle-là, là, vous le voyez, les feuilles là, que je passe, là, il y a 5 feuilles comme ça là, sur les 5 mythes. Là, c'est
rapide. Régis vient de le mettre. Là. Il y a le lien dans les commentaires.
Ah, parfait. Allez le chercher. Là. Ouais. Vous l'avez dans les commentaires. Là, allez le chercher. C'est du point par point. Là. C'est pas un document de recherche d'épais. Là. Avec les références scientifiques à la fin, elle fait 14 pages parce qu'il y a des graphiques à la fin. Là. Mais ce qui vous intéresse, c'est les genre 11 ou 12, là, les 11 ou 12 premières pages, mais c'est distancé. C'est pas du texte là, de même. Là. C'est super simple à lire. Ça va vous remettre les pendules à l'heure sur certains points. Là. Regardez bien le prochain. On va vous le repartager. Là. La recherche indique que le contrôle des armes à feu réduit le suicide. Celle-là aussi, ça a été ramené par les libéraux très, très, très dernièrement. Là. Le document dont on parle là, dans le haut, là, les études menées au Canada et en Nouvelle-Zélande et en Australie, au moins pour les premières années suivant la NFA, montrent que les réductions observées des suicides par armes à feu après la mise en œuvre des lois ont été compensées par des méthodes de substitution qui n'ont entraîné aucun changement significatif dans les taux de suicides globaux. Ça, c'est un résultat de recherche aussi, là.
La NFA, ce n'est pas la National Firearm Association, là, c'est le National Firearm Act. Là, juste,
exactement. Ben, écoute, ça fait une belle publicité.
Ouais, ouais.
Le document ci-dessus suggère que les permis, les licences, les exigences et les exigences au niveau de l'âge peuvent être associées à la réduction du suicide. Ce sont toutes des mesures que le Canada a déjà mises en place. Il n'appuie pas explicitement l'interdiction de certains types d'armes à feu. L'article note des preuves significatives de changement de méthode dans son analyse de la recherche canadienne, ce qui signifie que ceux qui n'ont pas d'armes à feu disponibles tentent de suicider par d'autres méthodes létales. C'est des résultats de recherche, ça, là. Langman, en 2020, ne démontre aucun impact sur les interventions de suicide par armes à feu. En 81, 2016, et aucune association sur les taux provinciaux de possession d'armes à feu versus le suicide. Tu sais, on est dans des instituts de recherche, des instituts de statistiques. Non, c'est peut-être pas léger, là. On le connaît peut-être moins, mais ça, c'est des instituts de recherche qui sont des chaires de recherche qui sont bourrés de PhD, bourrés de docteurs, puis qui, vous rappelle, comme Chuck disait tantôt, dans l'autre vie, en dehors de la chaire de recherche, c'est un urgentologue qui voit du monde rentrer et qui ressort avec l'étiquette après leur tête. Là. On est dans le vrai, là. On est dans le vrai. Le suicide, ici au Québec, on l'a abordé avec l'entreposage sécuritaire beaucoup dans les dernières années, d'ailleurs, Chuck.
Mais tu sais, moi, là, j'aime ça me faire l'avocat du diable, Martin. Là. Puis, oui. Mettons, je regarde ça, OK? Je lis cette page-là. Je me dis, bon, je suis peut-être d'accord pour dire que... Puis là, je fais toujours attention parce que, tu sais, cette partie-là de ce que je vais dire va être pris hors contexte. Puis là, après ça va dire, ah, Chuck, il est con. OK. Minute. La finalité d'une arme à feu puis l'accessibilité rapide peut faire que quelqu'un, mettons, qui décide de passer à l'acte, oui, c'est certain que là, je pourrais me ranger pour dire, regarde, ça fait des dégâts, puis des fois, tu sais, il faut juste, quelqu'un qui veut se suicider, tu sais, il faut juste casser le minding, puis parce que cette personne-là va juste penser que c'est la seule solution à ses problèmes, mais souvent, elle va juste réussir à parler à quelqu'un, puis là, ça va complètement changer le minding. Puis, tu sais, c'est sûr, si elle n'arrive pas à parler à personne, elle a des armes à feu rapidement accessibles, là, ça peut peut-être être un problème. Moi, ça, je peux me ranger, mais prends l'exemple du Japon. OK?
Oui.
Le Japon, là, il n'y a personne qui est capable d'avoir une arme à feu, même un 12 à rien. Pour la chasse, là, je veux dire, c'est hyper compliqué. Il n'y a aucune possession d'armes dans les mains de citoyens, puis c'est l'endroit au monde où est-ce qu'ils ont le plus haut taux de suicide. Puis on ne parle même pas, là, c'est même pas proche du deuxième, du suivant. Fait que, tu sais, c'est pour ça que ça fait aucun sens. Tu sais, s'il y a moins d'armes à feu, peut-être qu'il va y avoir moins de suicides par arme à feu, mais il n'y aura pas moins de suicides. Les gens vont quand même se suicider. C'est ça le point.
Et monoxyde de carbone, là, je veux dire, aujourd'hui, ben oui. C'est ce qui est répandu, là, beaucoup, beaucoup. Là. Ouais. On a des commentaires, justement, on a dit « Mon père est passé à l'acte, il avait des armes à feu, il s'en est pas servi. » Tu sais, moi, je dirais que dans mon très peu d'expérience avec ces tragédies-là, ceux que j'ai connus qui étaient propriétaires d'armes à feu, de par leur éducation sur la sécurité dans l'entreposage, dans la manipulation, dans le tout, puis la vision sociale des armes à feu, et qui ont commis ce genre d'actes-là, ne se sont pas tournés vers leurs armes à feu. Ils ont été vers d'autres moyens de le faire, ouais, littéralement. Ça, ouais. Et c'est la raison pour laquelle, et quand tu regardes un peuple de propriétaires légitimes d'armes à feu, qui se responsabilise comme nous autres, qui va vers de l'enseignement dans la sécurité, dans le danger que représente une arme à feu, au même titre que j'explique à mes enfants quoi faire quand ils trouvent un caletard de carton d'allumettes. Mm-hmm. Parce que ça exact. Aussi, ça tue. Puis ça, ça peut décimer une famille d'une claque. Je pense que Chuck, on pourra en parler, hein?
Ah, écoute, oui, je ne tiens pas à donner trop d'informations, mais oui, en effet, là, je peux témoigner.
Et voilà. Violence entre les partenaires intimes, je passe rapidement au travers parce qu'on l'a peut-être un petit peu moins. Ben, ça, c'est le féminicide. On peut quand même, on va le monter à l'écran quand même, là, c'est parce que c'est ce qu'on cible, mais on ne le dit pas. On le dit pas. Oh, peut-être, je ne voulais pas monter, je me suis monté moi, je ne bougeais pas depuis une seconde. Ajouter à la diffusion, comme ça ici, plein écran. Pour ceux qui vont vouloir le voir. Donc, mythe numéro 4, si je ne me trompe pas. Les armes à feu sont dominantes dans la violence entre partenaires intimes au Canada. On prétend que l'interdiction des armes à feu réduirait considérablement la violence entre les partenaires intimes. Il n'est pas approprié d'utiliser la recherche américaine pour prétendre que la réduction de l'accès aux armes à feu réduira la violence aux partenaires intimes. Le Canada a de multiples règles qui visent à protéger les époux et les conjoints de fait contre la violence familiale. Ces règles ne sont pas présentes dans une grande partie des États-Unis. Là, on y va en comparant les États-Unis. Je vous descends au deuxième point. Les données de Statistique Canada 2019 indiquent que seulement environ 1% des victimes de violences entre partenaires intimes ont été victimisées par une arme à feu. Ça, c'est l'Institut de la Statistique du Canada. Ils ont livré cette information-là en 2021. Les couteaux, les gourdins et autres armes étaient les armes dominantes utilisées. La définition de Statistique Canada de la victimisation par une arme à feu comprend une menace de l'utiliser et ne signifie pas qu'une arme a été utilisée. 1% des cas concernent une arme à feu, seulement 11% des 1% impliqueraient des blessures graves ou la mort. Alors là, ça veut dire 0.11%, là, littéralement, là, c'est ce qu'on vise là-dedans, là. C'est ce qu'on veut, décrire là-dedans. Encore une fois, c'est une citation qui n'est pas vraie parce que dans l'histoire des incidents, l'Institut de la Statistique du Canada livre encore une fois le fait que ça n'est pas... Si tu veux cibler la violence entre partenaires intimes, c'est pas à cet outil-là qu'il faut que tu t'attaques. Puis, par-dessus tout, c'est pas à un outil qu'il faut que tu t'attaques, c'est à des gens, encore une fois. Jusque-là, on l'a scientifiquement expliqué de manière très, très, très différente. Ça, c'est une chose, ça, que le féminicide, les libéraux l'ont ramené à quelques reprises. J'ai trouvé ça... J'ai de la misère avec quelqu'un qui veut traiter de manière égalitaire, qui appelle à pas de jugement, homogène, etc., puis qui parle de féminicide. Si tu parles de féminicide, t'embarques dans un game que tu condamnes. Parce que tu es en train de dire que le meurtre d'un homme ou le meurtre d'une femme a une plus grande valeur sociale que le meurtre d'un homme. Je veux
dire, ce qu'ils vont dire, c'est que c'est surreprésenté. La valeur d'une vie, là. Ouais. Vas-y. Non, excuse-moi, c'est parce que ça a coupé un peu. Je disais que c'est parce que, en fond, ils vont dire que les féminicides sont surreprésentés.
Ben oui, oui. Et ça, c'est un peu comme dire qu'on réduit à peine minimale les crimes par arme à feu pour éviter la surreprésentation des minorités culturelles et des Premières Nations dans les... Si tu veux, si c'est malheureux, mais un enfant qui touche pas à ça, tu vas aller dans le coin. C'est ton choix. Tu ne diminues pas les conséquences pour éliminer ou réduire la surreprésentation d'une certaine catégorie de personnes en milieu carcéral, caltard.
Tu viens de me faire rappeler quelque chose que justement le docteur Langman, ça c'est pas dans cette recherche-là, mais j'ai assisté à une de ses conférences, puis lui expliquait là, que la seule chose Le seul déterrent qui va empêcher quelqu'un de commettre un crime, c'est le risque de se faire prendre. Si,
Pas
par
fou, ça.
exemple, je te donne un exemple, bon, un criminel veut commettre un crime, s'il croit qu'il y a très peu de chances de se faire prendre, il va le commettre, le crime. Si, par exemple, il est convaincu qu'il va se faire prendre, ben là, je veux dire, soit il va changer de moment ou il fera pas le crime qu'il pensait faire.
Mais
Donc,
c'est quand on y
lui, là, dans
pense,
une de
c'est une
ses
chance.
recherches qu'il avait faites, c'est ça qui était sorti. C'est que justement, l'effet du risque de se faire prendre, parce que, je veux dire, ça vient quand même avec des conséquences, là. Je veux dire, de la prison, tout ça, c'est pas. Je veux dire, je connais pas grand monde qui souhaite aller en prison.
Ben non, non, littéralement, littéralement. De se faire
Même
prendre.
criminel ou pas, là, je veux dire, quelqu'un qui est à l'extérieur, il souhaite pas rentrer en dedans, là,
Il y
tu sais.
a, c'est info-suicide à un moment donné, quand justement qu'on était dans la campagne, je pense, ici, Chaudière-Appalaches, la régionale Chaudière-Appalaches, la FDCP, a une campagne qui s'appelle, si je ne me trompe pas, c'est Barre ton arme, le nom de la campagne. Puis dans les mêmes temps où est-ce que c'est apparu, il y avait info-suicide qui avait libéré des résultats de recherche. Puis la peur de la douleur est aussi quelque chose qui va motiver le choix du moyen qu'elle va prendre, d'où, par exemple, l'explosion à un moment donné de l'utilisation du CO2. C'est entre autres. Bon, on ne rentrera pas trop loin là-dedans. Hey, en
Ouais, parce
passant,
que
gang, vous êtes malade, vous êtes déjà 75 à avoir, 75 à avoir téléchargé et certains imprimé le document. Moi, je vous inviterais à prendre le lien Bitly que vous voyez là, et mettez-le sur votre Facebook. Littéralement, mettez-le sur Facebook pour que ça se partage at large, que les gens puissent le lire et le consulter. Le dernier mythe, je ne vous le présenterai pas au complet, mais encore une fois, là, on parle de l'Australie est une réussite en matière de contrôle des armes à feu. C'est un mythe. Et rapidement comme ça, là, une, deux, trois, quatre, cinq, six études sérieuses qui démentissent complètement le fait que l'Australie soit une réussite. Fait qu'encore une fois, c'est un peu comme. J'aime ça prendre cette comparaison-là, puis c'est une comparaison qui pourtant est très dangereuse. Quand on nous arrive avec le drame et toujours nos condoléances aux familles, on est toujours derrière vous. Le drame de la Polytechnique comme fer de lance dans ce dossier-là pour dire regardez comment c'est dangereux, c'est en même temps le fer de lance qui mord le plus les doigts de ces gens-là parce que le médecin légiste, à la fin de cette tragédie-là, à la fin de son étude, lorsqu'il a livré ses conclusions, a carrément dit qu'un contrôle sur les armes à feu n'aurait rien changé dans la tragédie de la Polytechnique. Alors, c'est un peu des documents comme ça qui prouvent et qui, avec des études à l'appui et des ressources scientifiques, donc des références scientifiques, quand on vient nous sortir que l'Australie est une réussite en matière de contrôle des armes à feu, là, vous avez toutes les preuves scientifiques appuyées par des chaires de recherche ici que, en fait, non, pas en tout. J'ai oublié deux autres études. Deux autres études. Fait que, le document, c'est un document, littéralement, c'est son mémoire. C'est vraiment identifié CQ Meeting, Comité Mémoire, Amendement G4, G46. Donc, c'est vraiment là. Il y a des recommandations, prenez la peine de les lire. Les graphiques, bah, écoutez, c'est un peu des graphiques qui représentent les études qu'on a utilisées. Mais quand tu commences à rentrer dans les références scientifiques, c'est des pages, il y a deux pages bien pleines là, de références scientifiques, là, donc d'autres ouvrages qui ont été écrits là-dessus. Alors, si on pensait qu'il n'y a pas de recherche qui se fait sur la corrélation, là, qu'on parle dans le vide, là, ben, Dr. Langman s'en est inquiété. Vraiment, vraiment, vraiment solide, là.
C'est parce que c'est un peu rafraîchissant de voir, tu sais, justement des chercheurs comme ça, des gens qui sont sur le terrain, qui, justement, avec une crédibilité, puis qui vont dire non, c'est pas du tout ça qui se passe. Puis, je veux dire, moi, j'aime vulgariser aussi un peu l'information, puis regarder un peu autour de moi. Puis, tu sais, on a parlé du suicide, je t'ai parlé du Japon. Puis, un des exemples souvent que j'aime rappeler pour les armes à feu, c'est la Suisse. La Suisse, la possession citoyenne d'armes à feu est totalement, tu sais, je veux dire, les Suisses sont de très, très grands tireurs sportifs. Je veux dire, ils ont un service militaire. C'est très accepté, puis je veux dire, c'est probablement un des endroits au monde qui fait le mieux vivre, là.
Hey, le seul problème qu'ils ont, et c'est étrange qu'on en parle parce que c'est un petit peu un problème qu'on est confronté avec le même gouvernement, le seul problème qu'ils ont au niveau de la criminalité présentement provient de l'immigration.
Mais je pensais que c'était très, très difficile justement à devenir citoyen suisse. Là,
ben, si définitivement. La partie immigration, la petite partie immigration qu'ils ont cause des problèmes au niveau de la violence parce qu'on parlait dernièrement que ça, c'est des chiffres que à un moment donné, là, gang, il va falloir confronter tout ça, là. Et on a un gouvernement qui nous parle de sécurité publique par rapport aux armes à feu, qui réduit les peines minimales, qui réduit les conditions de libération sous caution, puis qui maintient ouvert, puis qui ne fait absolument rien sur un poste où est-ce que rentre seulement que 10 % de moins d'immigrés illégaux qu'il y a d'immigrés légaux au Canada au complet. Puis ça, c'est chemin Roxham.
Puis on n'intègre plus nos immigrants non plus.
Ben non, non, du tout, du tout, du tout. C'est, tu t'en vas à l'hôtel, on te paye l'hôtel, après ça, tu t'en vas dans un loyer, on te paye le loyer, puis après ça... Fais-toi une micro-société en milieu de Montréal, change pas de langue, puis intègre-toi pas avec les autres, puis bienvenue au Canada, voici un chèque. Je veux dire, c'est ça. Ouais, Patrick, il dit en Suisse, tous les citoyens font partie des milices. Et, non, c'est ça. Il y en a des études, il y en a des exemples ailleurs en masse. Présentement, ça brasse aussi en France. Hein, on a, je sais pas si. Oui, Alice est là justement. Et Alice nous demandait, la Suisse est à côté de chez eux, oui, effectivement. Alice nous demandait justement à Kate et à moi de faire un article. Alice, c'était pour le magazine, si je ne me trompe pas. C'est-tu pour les chasseresses de France ou pour la Fédération des chasseurs français, un ou l'autre, là, de leur livrer un article sur la C-21, sur un peu l'historique de la C-21? Parce que présentement, en France, si je ne me trompe pas, là, on voyait des images carrément de propriétaires d'armes à feu qui allaient carrément domper leur collection d'armes à feu sur les parquets des postes de police là-bas. Là. Parce que ça brasse. L'acceptabilité sociale, si on parle entre autres de la chasse, là, si vous pensez qu'ici au Canada, on est canardé par le grand public, les chasseurs, là, les Français présentement sont la cible de beaucoup, beaucoup, beaucoup de médias. Il y a des campagnes qui sont énormes là-bas. Honnêtement, là, Jacques Bouffard, il dit, vous dites qu'il n'y a pas d'armes en Chine. Non, on parlait du Japon. On parlait du Japon, c'est les Japonais, genre, qui n'ont pas le droit d'acquérir des armes. Oui, les Chinois, ils ont des collectionneurs. Les Chinois, c'est aussi bon. Anthony, il dit pareil en Belgique, sauf qu'ici, les policiers se partagent les armes. Ben, ici, ils font, mais de manière plus cachée. Non, je dirais pas ça. On s'en demande, puis les conspirationnistes, là. Les conspirationnistes, puis je suis pas un conspirationniste, mais je me faisais du fun dans le temps de la COVID à lire un peu les conspirationnistes, puis je fais comme, au fond, là, quand on regarde les gouvernements, là, ils donnent du gaz en tabarouette aux conspirationnistes. Là, dans les derniers temps, on parlait de quelle façon ces containers d'armes-là allaient être distribués ou qu'on allait s'en défaire une fois le programme de réchauffement. J'ai lu des affaires assez fantasmagoriques, mais il y en a d'autres que quand j'ai lu, je fais comme, C'est peut-être pas sorti de Alice in Wonderland, ça, là. Non. Il y a des conspirationnistes qui commencent à viser dans le sens que le gouvernement donne du fioul, littéralement. Parce que t'as un premier ministre qui fait des allocutions à tour de bras sur le parquet des mosquées les plus radicalisées connues au Canada, qui, d'un autre côté, laisse rentrer l'immigration sur le chemin Roxham, puis qui, là, veut désarmer un peuple. On n'arrive pas à des conclusions comme ça, nous autres, à l'écran ici, là. On comprend-tu que n'importe quel conspirationniste, avec ces trois pôles-là, il fait du chemin en tabarouette? Hein?
Je te dirais, moi, ce qui m'inquiète le plus, là, c'est si le programme de rachat n'est pas fair.
Oui.
Les armes ne seront pas rachetées par le gouvernement. Ils vont se ramasser sur le marché noir. Puis là, tu vas te ramasser avec un problème encore pire que ce que tu aurais voulu empêcher.
Bien, c'est sûr. Ben, s'il y en a un qui a le temps, là, on va vous laisser bientôt. Ça fait déjà 1h10 qu'on est en live. Ça passe quand même assez rapidement. On ne veut pas non plus vous envahir votre vie. On a des enfants aussi. Allez sur mon compte Facebook, ma page, là, Martin Bourget, animateur. Allez chercher le reportage que Radio-Canada avait. Allez voir, c'est un homme qui est comme masqué avec des lunettes de soleil. Là. Christian, me semble, c'est toi. Vous avez 104 downloads du document. Continuez. Partagez-moi ça partout. Ah ouais, Facebook, fais circuler ça avant qu'il nous le barre.
Ouais,
c'est Christian, maintenant, qui va l'avoir envoyé. Je ne sais pas si Christian est connecté ou vous pouvez me le renvoyer. Radio-Canada, excusez-moi, un petit rhume. Radio-Canada avait fait un reportage. Ils sont allés dans un pit de sable parler avec un « Mon travail va notre récompense. » Yes, Régis. Ils ont été dans un pit de sable rencontrer un contrebandier d'armes à feu, un gars qui fait du marché noir d'armes à feu, puis ils l'ont interviewé sur la C-21. Et lui, là, il est fou comme de la merde, là. Pour vrai, là. Lui, il dit au reporter, vous n'avez même pas idée comment est-ce que le gouvernement est en train de me créer un marché, là. La mise en place de la C-21, c'est la plus grande promotion du marché noir qu'il y a jamais eu dans l'histoire. Puis de toute façon, si vous réussissez à y avoir aux frontières, ils disent, on va nous imprimer 3D, on va vous envahir. Moi, je vais faire de l'argent comme de l'eau. C'est ce qu'il dit, le gars. Si vous trouvez le lien de ce reportage-là, Radio-Canada ne l'a jamais télédiffusé.
Ça a été juste mis sur Internet?
Oui, ça a été juste mis sur Internet parce que c'est assez percutant. Là, ils ont plusieurs armes dans le pit de sable, puis ils tirent, puis ils expliquent un peu. Ouais, ça, c'est un 12, et ils ont changé la voix. Ouais, ça, c'est un 12, m'en avoir 200-300$ pour celui-là. L'autre, là-bas, m'en avoir tant pour... Ils expliquent tout ça, là, c'est comme... C'est un côté qu'on n'avait pas levé encore, hein? Mais c'est un côté qu'on n'a pas parlé publiquement. Comment est-ce qu'on va faire la promotion du marché noir en restreignant encore plus les armes à feu? Je veux dire, ça s'est vu dans l'histoire, dans le temps de la prohibition, avec l'alcool, avec n'importe quoi. Contraindre quelque chose, ça va trouver sa voie, là. C'est aussi simple que ça, là.
C'est ce que je crois aussi.
C'est le problème avec lequel on va se ramasser. Si vous le trouvez, mettez-nous-là en lien. Sinon, ce que je vais faire, c'est que Régis, on ira le rechercher là, dans... Oui, il va être riche comme Régis. Tu l'as vu, le reportage, Patrick? Si vous le trouvez, mettez-le ici. Sinon, c'est J.E. qui... C'est J.E. qui... Oui, mais je pense... Jean-Marc, tu te souviens-tu s'ils l'ont diffusé sur la... Parce que moi, là, je suis pas mal persuadé qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas eu le culot de le mettre à la télé. Tu l'as. Daniel, il l'a. Parfait. Si tu l'as, partage le lien ici que les gens puissent aller le consulter. C'est un chef-d'œuvre. Puis c'est aussi ce type de reportage-là que vous devez envoyer aux beaux-frères et à belle-mère qui ne vous croient pas quand vous parlez de la problématique avec les armes à feu criminelles versus les armes des propriétaires légitimes d'armes à feu. Vous devez leur envoyer ce documentaire-là pour qu'ils comprennent à quel point la mise en place des moyens telle qu'elle se fait présentement va faire la promotion littéralement du marché noir des armes à feu. Puis là, vous allez nous arracher parce que un policier a déjà dit, suivre le crime organisé, c'est pas trop pire. Ils sont organisés. La problématique, c'est les petites cellules désorganisées. Puis là, on est en train d'en créer une tonne parce que tout le monde, actuellement, cumule. Vous l'avez vu, là, il y a deux gars qui se sont fait saisir, là, les deux néo-nazis là, qui prenaient des armes, des armes sur le marché légal, puis ils les criminalisaient pour financer leurs activités néo-nazies. Là. C'est carrément ça qui se passe. Ça passe du marché légal au marché criminel, littéralement. Vous serez entendu, hein, on n'a pas le lien. Mais je vais vous le reposter. Là. Ah oui, l'émission spéciale à TV a passé une fois. Bon, et voilà, on l'a trouvé. Le YouTube que René vient de poster là, c'est le lien que vous voulez. Je crois, là, si je fais cliquer, moi... Alors moi, si je clique, là, je suis administrateur, ça ne l'ouvre pas. Je pense qu'on est tout à bout de stupidité gouvernementale. C'est pas mal de bon résumé. Ouais, ouais. Allez voir mais ça.
Je suis pas sûr que c'est de la stupidité. Je pense que c'est juste de l'opportunisme de dire ben, on a fait quelque chose, puis peu importe que vraiment ça va aider ou ça va nuire, ben, c'est juste pour dire on a fait quelque chose, puis c'est s'en laver les mains. Là. Je pense que c'est essentiellement ça.
Et voilà. Je reviens à est-ce qu'on protège des vies ou si on protège des votes?
Ouais, on protège des votes.
C'est malheureux. C'est très malheureux. Chaque côté, je te remercie infiniment. La semaine prochaine, je te propose de faire... On va aller rechercher les vidéos de Terry. On va aller rechercher les vidéos du dernier CQ Meeting de la semaine dernière. Moi, je vais probablement, avec Régis, avoir eu le temps de reprendre aussi mes dernières vidéos du CQ Meeting avec Pam Damoff et avec Norm Mohamed pour vous les mettre en contexte, vous expliquer un peu de quoi ils me parlent dans les questions qu'ils me posent et pourquoi je réponds ça. Entre-temps, vous allez sur le site de la NFA, entrez membre. Parce que plus on est fort et la NFA met ses prix justement de membership pour que ce soit accessible pour tout le monde. C'est 35$ le membership individuel. 10$, vous avez une assurance responsabilité civile à tout casser. Il y a le membership familial, il y a le membership à vie aussi. Vous voulez dire merci à la NFA puis joindre les rangs pour vous faire représenter par le nombre. Merci de mettre en place des lives comme ça en français. Pour vous informer, Rentrer membre de la NFA, c'est la façon de faire pour être représenté par le nombre. Donc, la semaine prochaine, on va regarder. Tu sais-tu déjà, toi, si t'es libre mercredi ou si ça va être plus jeudi la semaine prochaine?
Je vais te dire ça. Je vais te dire ça cette semaine.
Parfait,
je vais juste prendre l'opportunité.
Vas-y, vas-y.
Parce que je l'ai vu passer dans les commentaires. Joignez-vous aussi à nous le 6 mai pour l'Assemblée générale de la NFA qui va être à Brossard, au quartier 1030. C'est à l'hôtel Alt. Donc, le 6 mai, dans le fond, c'est ça. Toute la journée, il va y avoir des guest speakers. Mon anglicisme,
invité
mon franglais.
Discussion ouverte avec l'AGA de 9h à midi. Discussion ouverte avec des invités spéciaux de 13h à 17h. Et le banquet, dîner de soirée.
Oui.
Dîner de soirée. Ah, 18h à 22h. OK.
Evening. C'est dans le fond, venez rencontrer tous les gens à la NFA. Tout le monde va être là. Je vais être présent moi aussi. Donc, toute la journée, c'est tout ce qui est... Il y a les guest speakers, il y a l'administration, il y a des votes qui vont se faire aussi. Puis le soir, c'est ça, il y a un banquet, un souper, puis c'est cordial. Là. C'est vraiment très, très plaisant, justement, de pouvoir rencontrer le moment. Oui, Guy Morin va être là. Guy Morin a confirmé, donc c'est ça. On va annoncer là, toutes les... Pourquoi j'ai toujours guest speaker en tête?
Et comment ça va dire déjà? Invités spéciaux.
Les invités spéciaux, oui, c'est ça.
Qui vont être... arrive, tu cherches le lien vidéo, il est plus loin, plus haut dans les commentaires. Remettez-le. Remettez-le pour que tout le monde le trouve. Kate et moi, on voulait être sur place. Malheureusement, le lendemain, on prend l'avion pour l'Afrique. La veille, les enfants partent d'ici. Fait que on s'est dit, les enfants, ils n'auront pas le déjeuner tout seul, sa galerie. Fait qu'on va rester ici pour s'occuper des enfants. Fait que malheureusement, on ne pourra pas être là, mais avoir plein de monde sur place, ça en vaut vraiment la peine. Aller rencontrer ces gens-là qui font, ou du moins qui travaillent pour vous pour faire une différence dans le milieu. Puis s'il vous plaît, rentrez membre. Oui, conférencier, exactement.
Conférencier, c'est exactement ça. Merci, Patrick. Ouais.
Donc, on se voit, gang, en passant, en fin de semaine, donc à partir de demain, là, demain jeudi, ça commence à midi, c'est Salon plein air, chasse-pêche, camping et Salon du bateau de Québec au Centre de foire d'exposité. Nous autres, on va être présents. On n'a pas de kiosque sur place, mais on va être présents pour faire des lives dans les rangées. On va aller voir les différents exposants. On est là pour vous serrer les mains aussi. Venez en grand nombre nous voir. C'est aussi une place pour venir faire du social. Les tireurs sportifs sont sur place. On rencontre souvent des collectionneurs. Les gars du Militaria sont souvent là pour venir faire un tour. Les chasseurs, évidemment, sont là en grand nombre. Les pêcheurs aussi. Ça va vous sortir de chez vous. On a été confinés tellement longtemps. C'est le retour au présentiel. Venez faire un tour. Venez nous serrer la pince. Chuck, je te dis un gros, gros, gros merci. Puis on va se dire
à
la semaine prochaine, nous autres.
Yes.
Salut, Chuck.
Bye, Martin. Merci.